Le paddock RMC, Nicolas Paolorsi.
Salut les amis, c'est le retour du paddock RMC avant la troisième manche de la saison Grand Prix du Japon. Ça y est, on revient sur le circuit un peu traditionnel, ceux qui font l'âme et l'histoire de la Formule 1 à Suzuka. Ça va être une course super importante d'ailleurs pour voir un peu les différents rapports de force. Sur ce début de saison, le paddock est à retrouver, vous le savez, avant chaque week-end de course et après, avec le débrief tous les lundis. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, donc ça c'est vraiment trop cool. Continuez à noter le podcast sur toutes les plateformes de téléchargement. On est dispo partout ainsi que sur rmc.fr. Les ingénieurs pour ce warm-up du Grand Prix du Japon. Arnaud Valadon est là. Salut mon Arnaud.
Salut. Comment Nico, salut à tous. Ça va, c'est mon premier warm-up de la saison.
Mais c'est vrai ça.
Mais oui, que des circuits historiques. Tu vois, je ferai mon choix.
Ce que j'allais dire, t'as pas choisi le plus dégueu comme circuit.
Non. Après j'aime bien l'Albert Park aussi, parce que c'est plein de souvenirs d'enfance. C'était le premier, tu vois, c'est revenu. Le premier, mais là Suzuka c'est bien.
Ouais, c'est très bien. On va se régaler, surtout qu'il y a plein d'actu. Et on va accueillir un petit jeune, un jeuneau, une nouvelle tête dans cette team du paddock RMC. C'est lui qui est derrière le média que vous pouvez croiser sur Twitter, sur Insta, le média Le Sprint. Louis Chocre est avec nous. Salut Louis.
Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour l'invite. Ça fait super plaisir de pouvoir parler.
T'es notre petit Adjar. Comment va-t-il?
C'est notre petit Adjar.
C'est ça, première saison. On va voir comment ça se passe.
J'espère que ta première va mieux se terminer.
Voilà, c'est ça. J'espère que tu vas faire une Albert Park avec Adjar. On va essayer de...
Bah déjà t'es pas sorti dans le tour de formation là, sinon ce serait déjà terminé.
C'est ça.
Dis-toi ça. T'es un zinzin de Lewis Hamilton toi Louis, hein.
C'est
fan
ça.
Fan de Lewis.
Bah en fait j'ai commencé à suivre la F1 en 2006-2005 et tu sais... Hamilton est arrivé en 2007 et en fait tu vois les premières fois que tu suis et tout tu comprends pas trop et en fait quand Alonso était parti de McLaren en 2008 j'ai fait le fanboy et je me suis dit allez Alonso à la poubelle, Hamilton ça va jusqu'au bout et ça reste je pense mon choix, le meilleur choix de ma vie hein, parce que bon bah j'aurais pu être fan de allez, à qui je mette une balle, j'aurais pu être
Alonso,
fan de Ferrari quoi.
À cette époque aussi,
j'aurais pu être fan d'Alonso, voilà, j'aurais pu être fan d'Alonso.
Donc,
et bien sûr.
Donc ça veut dire que ton Grand Prix préféré le Grand Prix de Chine.
Pour Lewis. Oh là là, ça y est, ça commence tout de suite.
La sortie de piste, la sortie de pit lane.
Ah oui,
tout à fait.
On s'en rappelle bien. Le programme de ce warm-up, les gars, on va se focaliser sur Red Bull. Il y a déjà un pilote éjecté. Après même pas trois courses, Liam Lawson n'est plus un pilote Red Bull. On va se pencher sur ce deuxième baquet. C'est vraiment maudit cette place de coéquipier de Max Verstappen. On va revenir sur tout ce qui s'est passé, puis on va vous présenter ce Grand Prix du Japon qui va peut-être se dérouler encore un peu sous la pluie. Il y a quelques petits risques d'averse pour dimanche. On se régale en ce début de saison. Allez, c'est parti pour ce warm-up du paddock RMC. Grand Prix de Suzuka au Japon depuis 1987. La F1 vient au Japon sur ce tracé. C'est Max Verstappen qui a remporté les trois dernières éditions. Il est comme chez lui. Bon, ça sera peut-être pas le cas cette année parce qu'on voit que la Red Bull est bien moins performante que les McLaren. On en parlait, Arnaud, dans le sommaire. C'est un circuit mythique et c'est aussi un circuit qui va être important parce que on en parle, l'Albert Park et le Grand Prix de Chine. C'était assez particulier pour vraiment avoir de vraies infos sur toutes les forces du peloton. Et d'ailleurs, on a vu que les classements étaient tellement différents entre les deux courses que ça ne nous a peut-être pas donné toutes les infos nécessaires sur ce début de saison pour faire vraiment une hiérarchie. Là, ça va être l'occasion de le faire sur une piste que tout le monde connaît. Hein.
Oui, c'est un circuit qui est évidemment très particulier. Déjà, tu as ce fameux croisement, ce pont, ces grandes courbes très rapides, peu de très gros freinages. C'est vraiment c'est très rond, tu vois. Donc, ça va être très intéressant. On a envie, évidemment, de donner McLaren avec un temps d'avance parce que c'est la meilleure voiture. Elle génère énormément d'appui. Il va y avoir, évidemment, l'aspect pneumatique. On a déjà vu au Grand Prix de Chine qui... Et pas similaire, mais tu as aussi de belles courbes prononcées, peut-être un peu plus de gros freinage, mais tu as de belles courbes très intéressantes. Et l'avant-droit a été très problématique à gérer pour tout le monde, donc ça peut être encore une course de pneumatique malheureusement. Verstappen, Russell, qui sont là au classement des pilotes juste derrière Norris, vont répondre présent. On sait que la Red Bull a des choses intéressantes et que c'est un circuit que Max adore, puisqu'il a signé quoi, les trois dernières victoires, je crois.
Ouais, c'est ça.
et l'inconnu Ferrari, à voir comment s'adapter. On va avoir, je pense, sur le terme de performance, parce que c'est un circuit très intéressant, à la fois ce que valent les voitures, on a déjà un peu notre idée d'hierarchie, ce que valent les pilotes, parce que ça a été resurfacé, d'où l'enjeu des pneumatiques, et puis c'est un circuit où tu n'as pas forcément tout le temps de l'asphalte sur le côté, donc tu as moins le droit à l'erreur.
Bah en fait, ouais, c'est ça, si je peux me permettre d'ajouter aussi un circuit particulier, parce que mine de rien, on a tendance à oublier une seule zone de DRS, je vais y arriver. Ça se fait rare quand même, les Grands Prix où il y a une seule zone de DRS. Je crois qu'il n'y a que la Hongrie avec le Japon où il y a une seule zone
Zandvoort,
de DRS.
Il y en a deux, je crois.
Zandvoort, ouais, non, t'as raison. Zandvoort, il y en a deux.
Il y en a une dans la grande ligne stand et une avant.
Elle est très petite, ouais.
Après le gauche.
C'est ça, elle dure vraiment 3 secondes, mais elle est là. Et donc il y a ça, et puis surtout, ouais, comme tu disais en fait, Arnaud, la dégradation des pneus, on a bien vu que McLaren, ils sont vraiment champions sur ça. Ça va être intéressant de voir comment ils arrivent à encore une fois maximiser les réglages. Je pense que c'est un peu le highlight de ce début de saison, c'est McLaren qui arrive vraiment à trouver ce setup parfait. Je pense qu'on va avoir l'occasion d'en reparler, mais qui arrive vraiment à tout mettre à bout. Et donc je pense que c'est ça la force de McLaren, à voir s'ils vont réussir aussi à Suzuka, qui est quand même un circuit particulier, s'ils vont encore réussir à trouver ce setup parfait. Je pense que ça va être intéressant de suivre ça.
Je vous donne le programme. Première séance d'essai cette nuit, 4h30 du matin. Oh. La deuxième, ce sera à 8h. Ouais, ça pique un peu. Dans la nuit de samedi. La séance d'essai 3 à 4h30. Les qualifs à 8h samedi matin à vivre sur RMC. Et le départ de la course, ce sera à 7h dimanche. C'est vrai qu'on se lève un petit peu tôt, hein, mais c'est malgré tout moins tôt qu'en Australie.
C'était 7h ou 8h, voilà. Le Grand Prix en Australie, c'était 8, hein.
C'était,
je crois,
en Chine c'était 8h, ça c'est sûr, je crois.
En Chine c'était 8h, pardon. En Australie ça devait être presque 6 ou 7, je pense.
Ouais, je pense que c'était plutôt encore.
Je comprends avec la Chine c'était 8 et du coup le Japon c'est 7.
En tout cas, le réveil pique. Dimanche, on n'a pas envie de se réveiller pour ça. Après, c'était beau.
Oui.
Louis, c'est quoi ton rapport de force un peu là pour ce Grand Prix, avant de parler de tout ce qui se passe autour de Liam Lawson? Est-ce que tu vois quand même McLaren continuer à surfer sur ce début de saison avec une lutte Piastri, Norris qui s'intensifie et peut-être des tensions entre les deux pilotes, même si on voit que McLaren n'a pas fait de choix pour l'instant? Ou est-ce que tu vois bien une autre écurie venir les titiller?
Moi, je pense que clairement, peut-être qu'on va avoir une surprise, mais c'est difficile de voir une autre équipe de McLaren sur ce week-end. Comme on disait déjà, premièrement, c'est un circuit qui c'est ultra dépendant des pneus. Et vraiment, McLaren fait un effort extraordinaire. Il suffit de regarder juste les essais privés et les premières séances d'essais libres à Melbourne. Comment est-ce que McLaren arrive à conserver le pneu? C'est absolument terrifiant. Et vraiment, genre, pour message à tous les fans des autres écuries, mais vous attendez pas à les taper avant au moins le Grand Prix d'Espagne, et je vais expliquer pourquoi le Grand Prix d'Espagne très exactement après. Mais clairement, pour le Japon, je vois pas d'autres concurrents, surtout qu'en plus, si t'élimines Ferrari, j'ai pu parler avec Lucas qui gère le compte Ferrari France, peut-être que vous voyez sur Twitter.
Il
m'a parlé du fait que la Ferrari vont avant tout essayer de chercher de la stabilité, ils vont essayer d'essayer de comprendre la voiture qui, en fait, à la différence de McLaren, ils n'arrivent vraiment pas à mettre la main sur ce setup parfait dont on parlait juste avant. Peut-être Mercedes avec quand même un Russell qui est en forme, je trouve. Faut quand même saluer la performance de Russell, mais quand même Russell il est largué quand même par rapport, quand on voit si la McLaren est dans les conditions parfaites, Russell est juste largué. Et puis Red Bull, pareil, Verstappen peut faire un miracle, mais seulement Verstappen, et je pense pareil, on va avoir l'occasion d'en reparler, mais il y a que Verstappen qui arrive à gérer cette voiture, et ça fait depuis bien trop longtemps que ça dure.
Ouais, Charles Leclerc d'ailleurs, il a parlé là, hein. Vous savez qu'on enregistre ce podcast le jeudi, que c'est souvent là qu'il y a les conférences de presse et tout ça, même avec le décalage horaire, là ça tombe en même temps que l'enregistrement du podcast. Et Charles Leclerc a parlé, il a dit que bon, il a été assez cash, il a dit que la Ferrari n'était pas assez performante pour l'instant. Donc voilà, pour revenir un petit peu sur le début de saison manqué, ce sont quand même des mots qui sont inquiétants, Arnaud, pour Ferrari. Parce que l'année dernière, tu t'avançais quand même avec une vraie confiance. Et j'ai pas souvenir d'entendre ces propos dans la bouche de Charles Leclerc ou de Carlos Sainz l'an passé, avant le départ de certaines courses.
Après, il y a peut-être beaucoup de com' chez Ferrari. J'en parlais. On sent déjà que avoir Lewis à côté, c'est pas ton petit voisin qui vient de s'installer, quoi. Il prend de la place.
Ouais, mais tu vois, même au niveau du rythme pur, sur le rythme pur, tu vois qu'ils sont en retard par rapport à ce qu'ils attendaient, quoi.
Ah oui, par rapport à ce qu'ils avaient fait cet hiver, les essais. Après, je pense que, comme l'a dit Louis, ils ne comprennent pas encore la voiture. Il y a quand même cette victoire en sprint, il ne faut pas l'occulter, même si c'est un format particulier. Mais Lewis a quand même gagné, donc elle est capable d'aller chercher de la performance. Mais voilà, on arrive en fin de réglementation. McLaren est sur un nuage depuis l'été dernier. La concurrence est quand même assez féroce. Tu as des gros changements dans ton écurie. Alors, pas forcément au niveau des hommes, parce que voilà, Charles est toujours là, Ferrari, voilà, Fred Vasseur est là, les gens qui sont venus sont là. Mais bon, t'as Lewis, et je pense que ça perturbe peut-être un petit peu tout le monde, surtout quand tu n'arrives pas à comprendre exactement les réglages fins de ta voiture. J'attends vraiment de voir. C'est vrai que je trouve que Charles est souvent un peu pessimiste quand il parle un petit peu de sa voiture. Donc j'attendrai quand même de voir à Suzuka, où t'as à la fois, oui, ta voiture qui va faire une différence, mais t'as vraiment tes qualités de pilote qui s'exprime à mort. Et s'il y a un peu de pluie, on annonce vers la fin du Grand Prix. Je crois que c'est ça, et les oui. dernières données pour l'instant.
Ouais, c'est ça.
Donc on pourrait avoir une course où on verra vraiment ce qu'ont les voitures et les pilotes dans le ventre sur le sec. Et après, on va s'amuser avec la pluie s'il y a ça à la fin.
Ouais, avec une météo assez fraîche de ce qui se dit. La plus belle journée, ce sera vendredi pour les essais. Et puis après, ça va se couvrir vraiment. Et c'est vrai qu'il y a des averses qui ne sont pas écartées pour dimanche. Donc voilà, pas plus de 20 degrés aussi, hein, sur ces trois jours attendus au Japon. Tiens, il y en a un qui a mis une petite balle là aussi, là, dans le paddock de Suzuka, c'est Lando Norris. Bon, alors bien sûr, on allait le chercher sur le fait que McLaren paraissait pour l'instant imprenable. Je vais vous lire sa petite décla. Après, Norris, il est souvent un peu cash, surtout quand ça l'agace. Il dit « Je pense que ceux qui disent qu'on a un Batam disent n'importe quoi. Parfois, ils aiment juste dire des conneries. » Il dit « C'est votre travail en tant que média de comprendre ces choses-là et de ne pas simplement écouter ce que tout le monde dit puis de l'écrire. Vous devez essayer de comprendre ce qu'ils disent et de le prouver factuellement. Sinon, je peux dire un tas de conneries et vous les écrivez. » Voilà, bon, Lando, il est chaud. Il est chaud. Mais tu sens que ça commence à l'agacer, cette histoire de ouais, vous êtes les plus forts, vous avez la meilleure voiture. Alors qu'ils ont la meilleure voiture, Louis. Hein, il faut le dire quand même. Ils ont la meilleure voiture pour l'instant.
Ils ont la meilleure voiture, mais quand même, il faut faire attention parce qu'on a vu, je pense notamment au sprint au Grand Prix, en Chine, pendant le week-end de Chine, cette McLaren. Alors, autant quand elle est première et qu'il y a un air propre.
Pas de dirty.
Alors, pas de dirty, exactement. Alors, elle fonctionne très bien, mais alors quand elle est dans le trafic. Regardez la course de Norris. Norris, genre, on peut dire ce qu'on veut, ça reste un pilote qui a énormément de rythme le dimanche. Et en fait, il était là, il galérait dans le trafic parce que cette voiture, elle est beaucoup trop pointue. Et en fait, dès qu'il se retrouve dans ce dirty air, c'est l'enfer de piloter cette McLaren. Donc, pour peu qu'il se passe quelque chose, un fait de course assez imprévisible, et qui peuvent arriver à Suzuka, notamment avec la pluie, on en parlait juste avant, ça peut arriver que ces McLaren, elles peuvent se retrouver dans le milieu de peloton, et à ce moment-là, ça ne va pas être facile de remonter, parce que comme on disait, il n'y a qu'une seule zone de DRS, au Japon, c'est galère de dépasser, donc évidemment, elles sont favorites, mais à voir comment la course se déroule, en fait.
Il y avait cette radio où Norris disait « Écoutez, je ne peux pas me rapprocher de Piastri en Chine parce que
c'est
je vais me retrouver dans son air sale, en fait. » Donc, ouais. Alors que son équipe lui disait « Prends un peu d'avance parce qu'on ne sait jamais derrière, etc. » Et lui, voilà, dit « Oui, mais je n'ai pas envie d'être trop près de Piastri. »
C'est ça.
C'est vrai que c'est une donnée à prendre en compte. Vous avez bien raison, les gars. On va se pencher sur ce qui se passe chez nos amis de chez Red Bull. Télénovelas, mais j'ai envie de te dire que ça fait plusieurs années que ça dure. Mais celle-là, on l'attendait pas quand
même. T'imagines le générique, les feux de l'amour avec Helmut Marko, Christian Horner, Max Verstappen.
Ouais. On a tous perdu notre. Attendez, on a tous perdu notre pari quand même. On a tous perdu notre pari parce qu'on avait tous dit que le premier pilote à se faire éjecter, ça allait être Jack Doohan pour mettre Franco Colapinto. Et Liam Lawson s'est fait éjecter au bout de deux grands prix. Rétrogradation, il retrouve un volant chez Racing Bulls et c'est Yuki Tsunoda, du coup, qui monte dans la deuxième Red Bull. Voilà, les résultats de Lawson n'étaient pas au rendez-vous. On rappelle qu'il n'a pas terminé la course en Australie, qu'il a terminé 12e, mais parce qu'il a profité des disqualifications de trois voitures devant lui en Chine, qu'il était encore très très loin en termes de rythme. Deux circuits, Louis, sur lesquels il n'avait jamais roulé. Il avait déjà roulé à Suzuka, donc lui s'attendait vraiment à participer à cette course. Et du coup, il a été éjecté. Je vais dire un peu comme un malpropre, mais là, la décision, elle paraît dingue quand même de sortir Lawson au bout de deux courses seulement.
La décision, elle est dingue. Et surtout que Moi, je vais être honnête, c'est vraiment purement mon point de vue, mais je suis pas, en fait, je comprends pas. En fait, qu'est-ce qu'il pense ? Il pense que Tsunoda... En fait, la seule logique que je vois, c'est que je pense que sur Tsunoda, ils sont en fin de cycle. Tsunoda, ça fait 4 ans maintenant. Ça fait sa 4e ou 5e saison ? 4e, je crois, en F1.
5 ans
en F1.
Ça fait 89 Grand Prix, je crois que c'est ça, un peu.
Voilà, 89 Grand Prix. On sait que Honda, l'année prochaine... Ils vont chez Aston. On est peut-être aussi sur une fin de cycle en fait du côté de chez Red Bull. Et en fait, c'est peut-être aussi un moyen de s'en débarrasser parce que en fait derrière ça toque. Derrière Tsunoda, ça fait 4 ans qu'il est dans l'égérie Red Bull. Il a toujours pas avancé. Ils vont le mettre dans cette Red Bull. Et moi, je vais être honnête, les gars, je vois pas de miracle pour Tsunoda. Alors peut-être qu'il va me faire mentir. Mais quand on voit si c'est passé avec Gasly, avec Albon, avec Perez, avec surtout avec Lawson, je ne comprends pas. C'est un effet qui a commencé en 2019, rappelons-le, avec Pierre Gasly, qui a continué, qui s'est empiré avec la réglementation de 2022. Et en fait, j'ai presque pitié pour Tsunoda. Non seulement j'ai presque pitié pour Tsunoda parce que j'ai l'impression qu'en fait il va se faire déchirer par un Verstappen qui peut-être est très fort, mais je pense aussi que c'est cette Red Bull qui est absolument tellement difficile à essayer de comprendre, à essayer de gérer, qui va galérer le pauvre Tsunoda. Et moi, j'ai peur, les gars, pour Hadjar. Parce que moi, je pense pas que Tsunoda, il va rester toute la saison. Hein. Parce que si Tsunoda, il nous refait des P20 et des
P19... Il y a un moment, ils vont pas lâcher tout le monde. T'as vu en plus le petit commentaire de Verstappen qui a liké un post d'un ancien pilote de F1 qui dit que Lawson s'est fait bouger beaucoup trop tôt, que la décision elle est incompréhensible. Max Verstappen... qui a liké et qui a assumé aujourd'hui, les journalistes lui ont posé la question, ils lui ont dit Max, ce like c'était quoi ? C'est une erreur ? Il dit non, j'en ai parlé avec l'équipe, je suis d'accord, c'était bien écrit, pour moi la décision de bouger Lawson était totalement précipitée, donc voilà, il valide ça veut dire que ton pilote numéro 1, ta superstar, même elle va à l'encontre de ta stratégie, donc il y a un moment, Tsunoda, ils vont pas lui couper la tête dans 10 Grands Prix, enfin ça n'aurait plus aucun sens Arnaud.
Non, bah déjà je pense qu'ils rattrapent juste leur erreur, qui aurait été je pense de promouvoir dès le départ Tsunoda, de laisser Lawson apprendre son métier, chez Racing Bulls. On voit que c'est quand même une belle écurie pour former du monde. Hein.
Bien sûr.
Les Gasly. Alors c'est vrai que Tsunoda, je suis pas un grand fan, mais je pense que voilà, quitte à faire une dernière saison dans cette réglementation, on a congédié Perez. Allez, on met Tsunoda. C'est un pilote chevronné. Et au pire, si ça marche pas, eh bien on mettra un jeune pour la deuxième partie de la saison. Ça me semblait plus cohérent et plus logique. Là, t'as mis Liam Lawson. Ça peut paraître dur, mais je trouve que c'est lui rendre service sur le reste de la saison, de l'envoyer avec Hadjar dans une équipe qui est plutôt structurée, qui va laisser te développer, qui est dans une bonne voiture. On parle beaucoup de la Red Bull qui serait inconduisible ou trop fine en réglage ou trop faite pour Max. Alors Verstappen a dit qu'il ne pensait pas qu'elle était faite à 100% pour lui, que Red Bull a dit on ne fait pas des voitures pour Max. Moi, j'ai essayé un peu de réfléchir et de revenir aussi sur la question des ingénieurs. Parce que Tsunoda a dit j'ai eu des coups de fil de Gasly, de Perez, de Albon, qui lui ont peut-être dit quand même bonne chance.
Tout à l'heure, mais c'est ce qu'il dit. Ouais, bonne chance.
Mais je me suis intéressé un peu aux ingénieurs de la Red Bull numéro 2. Il y a évidemment une grande stabilité avec Max Verstappen et Giampiero Lambiezze depuis qu'il a 17 ans. Là, voilà. Et je me disais, Gasly, il avait un certain Mike Lugg, qui est aujourd'hui parti diriger Envision en Formule E, mais qui n'est pas resté chez Red Bull. Et Gasly avait dit... ça serait bien qu'on puisse avoir un ingénieur un peu plus chevronné. Parce qu'en fait, Albon, il a hérité du même ingénieur. Et lui a obtenu de changer d'ingénieur. On a mis Simon Rennie, qui est resté un petit peu et qui est aujourd'hui chef de l'ingénierie simulation, toujours chez Red Bull. Donc voilà, t'as le droit d'évoluer, t'es pas obligé de rester toujours ingénieur de piste, mais tu vois, c'est quelqu'un qui est resté dans le giron. Ensuite, on a eu Hugh Bird jusqu'à l'année dernière. Lui, il est parti, donc il était ingénieur de piste de Perez. Il est parti à l'usine dans le département suspension de Red Bull. Mais voilà, un peu des noms, tu regardes un peu les CV. tu sens voilà un peu plus d'ingénieur parce que c'est un, je pense qu'on sous-estime un peu aussi l'importance, notamment quand tu arrives dans une nouvelle écurie, un nouvel environnement. On a vu un peu Adami avec Hamilton, ça se cherche un petit peu à se comprendre comment je parle.
Tu veux
à mon
dire
pilote.
Qu'il y a zéro stabilité, que ce soit chez le pilote, dans
disons
l'équipe,
qu'on met peut-être pas l'ingénieur idoine pour le pilote de la Red Bull numéro 2. Et aujourd'hui, on a Richard Wood avec l'ingénieur donc numéro 2. Et en fait, je me disais, tu prends Antonelli, c'est Peter Bonington qui lui parle. Et je pense que ça change. Le pilote est rookie, il a Peter Bonington qui lui parle.
C'est sûr.
L'ingénieur de Lewis Hamilton. Je pense que la voiture, effectivement, semble très difficile. Et seul un pilote du talent de Max peut y arriver. Mais je pense qu'il y a peut-être aussi cette instabilité où trouver le bon ingénieur aussi pour aider, pour accompagner ces pilotes de la Red Bull numéro 2. Je pense que du côté de Red Bull, on n'a pas réussi.
Mais je vais aller plus loin. Je pense que c'est le bon ingénieur et les bons ingénieurs. Parce que je pense que un écart de performance aussi grand comme on voit avec Lawson, malheureusement, c'est aussi la traduction d'un mauvais travail avec ses ingénieurs, ou du moins d'un travail qui peut être grandement amélioré. Alors on va le pardonner parce que bon, bah, c'est effectivement ça. Est-ce qu'on peut le compter comme sa saison rookie ? Moi, je pense que oui. C'est ça aussi le problème en fait, c'est que il y a une mauvaise alchimie qui est là depuis 2019, qui s'est accentuée avec 2022 avec le changement de réglementation. Mais d'un autre côté aussi, chez Red Bull, on a tout tenté. C'est-à-dire qu'en fait, on a changé les châssis plusieurs fois avec Perez. On a essayé souvent, d'ailleurs, quand on change le châssis, c'est assez mauvais signe. Vous savez, c'est souvent une espèce d'effet placebo et généralement, ça ne change pas grand-chose. On l'a vu par exemple avec Ocon et Ricciardo en 2020. Ricciardo mettait une pilule à Ocon. On a changé les châssis pour faire plaisir à Ocon. Ça n'a rien changé. Spoiler. Et c'était pareil avec Perez. C'était pareil avec Albon. C'était même pareil avec Gasly, je crois. Et donc, c'est souvent pour essayer de faire plaisir. On essaye de changer les réglages. On essaye de trouver un réglage un peu plus agressif. Lawson, il a tout essayé. Il a dit pendant le Grand Prix de Chine, on a essayé de faire le setup le plus agressif possible. Et on voit bien que ça n'a pas marché. Et en fait, les solutions, là, elles commencent à partir. Et en fait, moi, ce qui m'inquiète pour Red Bull, c'est qu'est-ce qui va se passer ? Qu'en est-il, là, du futur de Red Bull une fois que Verstappen ne sera plus là ? C'est ça aussi la question.
Et juste, je ne remets pas en cause du tout les qualités d'ingénieur de tous ces gens-là, qui sont des gens éminemment brillants pour arriver à de telles fonctions, mais c'est the right man at the right place. Je me disais, Isaac Hadjar, mais il a Pierre Hamelin dans le casque. Pierre Hamelin, il a quand même beaucoup d'expérience. En plus, il y a la relation francophone, francophile, enfin français tout simplement, mais Pierre Hamelin, il sait aussi accompagner un jeune pilote qui débute avec tout ce qu'il a vécu avec Pierre Gasly, notamment. Et je pense que, voilà, c'est aussi un... C'est le pilote qui est dans la voiture, mais le duo est important.
Ouais, mais peut-être que...
Les réglages et la confiance.
Tu vois, j'entends ce que tu dis, mais je ne suis pas non plus tellement d'accord parce que, tu vois, finalement, sur un tour de qualif, tu es tout seul, tu n'as pas ton ingénieur, tu n'es pas sur Drive to Survive et tu as ton ingénieur qui te dit push pendant que tu fais ton tour de qualif. Non, mais tu vois, genre, d'ailleurs, faut qu'ils arrêtent avec ça, c'est encore cette année, ils faisaient ça, c'est horrible. Non, mais sans déconner, quoi, tu es tout seul. Et en fait, c'est pas ton ingénieur qui va te faire gagner 8 dixièmes sur Verstappen. Et aussi, un truc traître, un élément assez traître, c'est qu'on a tendance à vraiment taper sur Perez, on a tendance à vraiment taper sur Lawson. Alors que, les Gasly et les Albon, c'était assez pareil. Et en fait, la différence par rapport entre 2020 et 2025, c'est que quand tu te prenais 8 dixièmes de retard en 2020, t'étais 8e. Quand tu te prends 8 dixièmes de retard aujourd'hui, t'es P20, t'es P19. Mais oui, exactement.
Après, Perez avait eu de la performance parce que je regardais, il a fait rapidement un podium au bout de 6 ou 7 Grands Prix quand Albon avait dû attendre un peu plus. Je ne sais pas si c'est presque 20 Grands Prix avant de faire un podium, mais il y avait plus de P6 ou en tout cas dans le top 6.
Perez est celui qui a le mieux réussi dans ce rôle-là.
C'est juste, ça s'est très mal terminé.
La saison 2023 de Perez, rappelez-vous, même la saison 2022, elle démarre très bien. Il y a des victoires.
On se demande, il pourrait peut-être même battre Max.
Mais voilà, moi je me souviens très bien. C'était la veille du Grand Prix de Miami. Perez, il gagne le sprint en 2023. On est là. On a fait un space Twitter avec tous les comptes F1FR. On était avec Ferrari France, Red Bull France, et on était là tous en mode ah, et si peut-être que Perez et tout. Et Red Bull France, je me souviens, il nous a tous calmés. Il nous a dit non, mais vous allez voir, là demain ça va être une domination de Max à outrance. Et on y croyait à peine. Et en fait, il a raison. C'est juste en fait, petit à petit, bizarrement, hein, la chance, le hasard, la Red Bull, elle a subitement commencé à changer. Bizarrement, elle commençait à de plus en plus plaire à Verstappen. Bizarrement, Perez, il a commencé de plus en plus à s'en plaindre. Et puis Perez, il a commencé à dégringoler dans le classement. Donc en fait, tu vois, c'est là où tu redisais au début que Verstappen, il nie que le fait que la voiture, elle n'est pas faite pour lui. Mais en fait, quand t'es ingénieur à Red Bull, tu écoutes Verstappen, tu es sur des saisons extraordinaires ou tu écoutes enfin Sergio Pérez, Liam Lawson, Pierre Gasly, Alexander Albon.
Mais du coup, c'est qu'en
fait, t'écoutes les débriefs de Lambiezé ou Richard Wood qui arrive, tu vois, t'as ça
aussi. Exactement, hein. Exactement.
Oui, mais les gars, je suis d'accord, mais alors quel est l'intérêt? Alors juste, quel est l'intérêt? Après, on écoutera Liam Lawson, mais quel est l'intérêt de Red Bull de faire ça? En fait, c'est quoi l'intérêt? C'est quoi? C'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de développer la deuxième voiture. Parce que si tu veux être performant, si tu veux aller chercher des titres, tu en as besoin de cette deuxième voiture. Donc je vois pas pourquoi
les
gars.
La voiture
est
en difficulté.
Ouais, mais moi, je suis pas en train de dire que Red Bull est en train de les saboter. Je suis juste en train de dire que du côté du deuxième pilote, on n'arrive juste pas à faire ce travail. Et ça fait des années que ça dure. Ça fait des années qu'on essaye tout, qu'on tente tout. Et qu'en fait, au final, la solution.
Donc c'est quoi? C'est un problème de compétence?
C'est, je pense, un problème
d'équilibre.
Ouais, d'équilibre.
Donc, quand ça va pas, on voit plus facilement les fractures, les déséquilibres. Et là, en fait, Max, c'est l'arbre qui cache la forêt parce que cette voiture, on le disait, elle est la quatrième du plateau. Moi, j'aime beaucoup la Williams. Alors après, on va voir, mais je vais un peu trop devant. Mais je trouve qu'elle est aussi intéressante. Bon, la Red Bull est encore devant parce que énorme puissance moteur, tu vois, sur la traction, ça va. Mais je pense que Max, il cache tellement. L'abîme, en tout cas, le problème de cette voiture, que ça change un peu notre vision et nos avis, parce qu'on dit, ah bah oui, il est quand même là, il est quand même numéro 3 au classement des pilotes, etc.
Ouais, mais tu vois, là, c'est en train un peu de faire...
Numéro 2 ou numéro 3, je sais plus. Numéro 2.
De quoi?
Max. Il est deuxième.
Oui, 36 points.
Tu vois, c'est en train un peu de faire, c'est dommage, parce qu'en fait, on est en train de... En fait, j'ai comme le sentiment que cette Red Bull, elle est même pas si forte que ça. Et en fait, c'est surtout que Max la maximise l'effort.
Ça, c'est évident.
Et en fait, c'est en train de faire, et peut-être tu as la comparaison, on va pouvoir parler à pas mal de gens, même si elle n'est pas forcément très très précise, une espèce de Alonso 2012. Vous savez, c'est cette saison où Alonso, il surdomine. C'est de loin le meilleur pilote de la grille, mais de très très loin le meilleur pilote de la grille. Et il conduit une espèce de poubelle rouge sur les circuits. On l'a tous vu cette vidéo à Abu Dhabi où il est là, un coup il survire, un coup il souvire. C'est l'enfer. Et en fait, Alonso, il en fait des miracles. Et j'ai l'impression que Verstappen, c'est un peu la même chose. Parce que regardez les onboards de cette Red Bull. Je suis désolé, elle est pas idéale, elle est pas parfaite. Hein. Et ça remonte à l'année dernière. À partir du milieu de saison, la Red Bull, elle est vraiment pas idéale à conduire. Je suis désolé.
C'est pour ça que.
Tiens, un petit point sur le classement, les gars. On en parlait quand même. Je vais refaire le point comme ça, on y voit clair. Hein. Lando Norris 44 points, Verstappen 36 points, Russell 35 points et Piastri 34 points. Donc le deuxième, troisième et quatrième se tiennent en deux points. Avant de retourner dans le débat, quand même, on va écouter la réaction de Liam Lawson qui s'était exprimé sur son éviction.
I found out after China, basically. I had no idea.
J'ai appris après la Chine et je m'en doutais pas.
I guess the Monday or Tuesday.
Ça a sûrement été décidé le lundi ou le mardi après. J'ai quitté la Chine, j'ai commencé à me préparer pour le Japon. J'ai eu un appel pour me dire ce qui allait se passer.
Obviously, it's.
J'ai été plutôt surpris, franchement.
I was hoping to,
you know, très tôt dans la saison. J'espérais rouler sur un circuit que je connais déjà. Pour avoir un week-end propre. La décision a été prise quand on me l'a dit. C'était difficile à entendre. J'ai eu un ou deux jours pour y penser. Et puis j'étais à Faenza avec Racing Bulls pour me préparer. J'ai l'opportunité de continuer à piloter en F1, c'est le plus important pour moi.
On
sait comment est la Formule 1 et comme les choses évoluent rapidement. Il y a un an, j'étais ici sans voulant. Et puis j'ai eu l'opportunité en fin d'année dernière, donc j'ai eu l'opportunité ensuite d'aller chez Red Bull. Donc beaucoup de choses se sont passées en 12 mois et l'important, c'est d'être dans une voiture. Pouvoir prouver que je mérite d'être ici. C'est ce que je vais essayer de faire, comme à chaque fois que je monte dans la voiture. Ça n'affecte pas cette décision, ce que je pense de moi-même, mais j'aurais aimé concrétiser cette opportunité, c'était dans mon intérêt. Christian et l'équipe en ont décidé autrement.
C'est
le sport automobile et ce n'est pas mon choix.
Alors, tu sais qu'il y a eu un drama.
Voilà, Liam Lawson.
Il y a eu un drama. Adrian Newey, sa femme, et Helmut Marko, là, on a vu, c'est en train de sortir. Alors, il faut que je vérifie si c'est vraiment vrai. Mais en fait, Helmut Marko dit oui, si Tsunoda n'est pas venu chez Red Bull tout de suite, c'était à cause d'Adrian Newey. Et sa femme aurait répondu sur Twitter. Ouais, en gros,
j'ai pas vu cette info.
C'est vrai, j'ai pas vu non plus, ouais.
Écoute, c'est repris par tous les comptes. Selon Helmut Marko, ou ce qui est rapporté, Adrian Newey aurait entravé la promotion du kit Tsunoda. Non-sens, selon Amanda Newey, épouse de l'ingénieur britannique, elle a répondu sur X.
C'est pas sorti le 1er avril, ça?
Écoute, je vais vérifier. Mais c'est pour ça que
on utilise le conditionnel.
Ça serait dans le drama.
C'est très rigolo. Est-ce que Louis Lawson, il peut se remettre de ça? Parce que là, c'est d'une violence quand même, te faire bouger, même si lui, bien sûr, il est en mode, j'ai un volant en Formule 1. Donc, sa carrière est loin d'être ruinée. Mais tu sais que la promotion chez Red Bull, déjà, il ne l'aura plus. Et derrière, l'impact que ça a sur la suite de sa carrière, c'est quand même assez considérable.
Moi, tu sais, je pense qu'il y en a plus d'un qui a réussi à s'en remettre. Et je prends l'exemple de Gasly, je prends l'exemple de Albon, qui aujourd'hui sont de très bonnes situations. Alors, évidemment, ce passage à Red Bull, c'est un espèce de run killer un peu. Parce que...
Ouais, mais Gasly et Albon, je suis d'accord avec toi, mais ils ne peuvent plus gagner. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, enfin,
ils sont dans de bonnes écuries.
Lawson aussi. Mais c'est à ce moment-là que Lawson, il va vraiment devoir se démarquer. Et que, en fait, le seul moyen là, maintenant pour Lawson de survivre, c'est en fait. Et on espère en tant que Français que ça va pas trop se passer. En fait, son seul moyen, c'est qu'il mette une pilule à Adja et de montrer qu'en fait, si c'est passé, c'est un accident. Il a montré des bonnes performances. Il a montré que, par exemple, face à Ricciardo, même si Ricciardo, bon, bah, c'était plus à ce moment-là le pilote, forcément, motivé. Le pilote de la Red Bull en 2018. Et bah, il tenait la dragée haute, je trouvais. Donc, c'était quand même déjà ça. Et puis. Non, moi je pense que c'est parfaitement possible et même je pense que c'est mieux qu'on le sorte dès maintenant. Je pense que d'ici quelques courses on n'en parlera même plus si Lawson tout de suite il arrive à faire des bons résultats. Moi c'est plutôt pour Tsunoda que je m'inquiète parce que...
Tiens, bah, on va l'écouter. Voilà, avant de rentrer dans le débat de Tsunoda, t'as raison et on va voir si Yuki Tsunoda est vraiment capable d'inverser les choses. On va l'écouter sur sa promotion.
I got a message from Pierre.
J'ai eu un message de Gasly.
About the experience he had in Red Bull.
Il voulait m'appeler par rapport à son expérience avec Red Bull, les choses qu'il aurait dû faire chez Red Bull. Il voulait me partager des choses, des choses qui pourraient marcher pour les prochaines courses. C'était vraiment très sympa de sa part et franchement, il a eu de bons conseils. Checo Pérez m'a également appelé. Enfin, toute la famille des pilotes Red Bull me soutient, franchement, ça fait plaisir. On m'a clairement dit que la priorité c'était Max, on m'a pas menti sur ça. Et c'est ce que je comprends totalement d'ailleurs, il est 4 fois champion du monde. Donc, dans les dernières courses, même si sa voiture était très compliquée à piloter, il a performé quand même. Donc il faut que je sois le plus proche de lui. Je dois aussi aider au développement de l'écurie avec mes retours. Ils avaient l'air satisfaits de mes retours à Abu Dhabi. Je m'attends à ce que ce soit très dur. Ce ne sera pas aussi facile qu'on peut le penser. Et en plus, j'ai peu de temps pour m'adapter, mais je vais faire de mon mieux. Et si je peux passer en Q3, marquer des points dès ce week-end, je serai heureux. Voilà, Yuki Tsunoda. Est-ce qu'on le voit performer, Yuki Tsunoda? Louis, tu disais que tu étais inquiet, toi, pour lui. Tu ne vois pas réussir à inverser les choses quand même, parce que le bagage de Tsunoda est quand même bien plus important que celui de Liam Lawson, même si on ne veut pas manquer de respect à Lawson. Mais Tsunoda, c'est quand même quelqu'un qui a 89 Grands Prix au compteur. On en a 89 Grands Prix, qui a marqué des points. On le disait, 5 saisons de Formule 1 derrière lui. C'est un pilote qui a 24 ans, mais qui, mine de rien, commence à emmagasiner vraiment de l'expérience. T'es pas dans la même situation que Lawson, qui a 13 Grands Prix derrière lui, tu vois, dont 2 avec Red Bull.
Mais en fait, déjà, moi, je pense que ce qui est bien avec Tsunoda, c'est que déjà, ça risque de un peu mieux se passer. En tout cas, au début, avec pour Lawson, parce que déjà, comme tu disais, ça reste un pilote expérimenté, quasiment 90 départs pour sa carrière. Et en fait, d'ailleurs, c'est Lawson lui-même qui le disait. J'ai lu un article juste avant d'arriver qui disait que Lawson, il pense que pour Tsunoda, ça va mieux se passer. Parce qu'en fait, il pense que déjà, le Japon, c'est une course que Tsunoda tenait très bien. Et en plus de ça, les réglages seront un peu mieux adaptés de ce que j'ai cru comprendre pour Tsunoda. Parce qu'en fait, ils vont pas essayer d'aller se risquer à grand chose, contrairement à ce qu'ils avaient fait avec Lawson. Lawson, il a vraiment expliqué que. Pour la Chine, ils ont vraiment fait un all-in, c'est-à-dire soit ça passe pas. En l'occurrence, ouais, c'est pas passé du tout. Et du coup, il y a peut-être un monde où pour Tsunoda ça se passe un peu mieux. Mais étant donné que ça se passe mieux, genre faut pas s'attendre à avoir des grosses P3 ou à avoir sur le podium. Tu vois. Moi, enfin, je sais pas vous, hein, peut-être là je vous pose la question en retour. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de Tsunoda chez Red Bull? Moi, je vois pas autre chose que ce qu'on a vu avant, en fait.
Après, qu'est-ce qui serait un week-end réussi pour Tsunoda? Être dans les points, en fait.
Ouais.
Je sais pas ce qu'on juge.
Entre 6 et 8, pour moi, il fait un bon week-end, tu vois.
Ouais, c'est ça. Mais bon, si c'est un bon week-end, Jean Verstappen, il fait P2, tu vois. Tu vois, c'est ça.
Mais c'est la vérité, tu vois. T'as l'air déjà.
En fait, déjà, le but, les gars.
Déjà, le Q2.
Ouais, c'est ça.
Le but, Arnaud, Le but, Arnaud, c'est de placer sa voiture dans les points et de priver certains concurrents de points aussi. C'est ça, parce que devant, ça va tellement vite. En fait, on ne va pas lui demander tout de suite d'aller sur le podium. Tsunoda, est-ce que toi, Arnaud, tu le vois capable, pas de chatouiller Verstappen, mais voilà, de se mettre au niveau, comme a pu le faire un Sergio Perez pendant plusieurs saisons, et d'être capable d'être un coéquipier solide qui permettrait à Red Bull de rester dans la course pour le championnat constructeur pendant quelques temps. Parce que c'est ça un peu l'enjeu de Tsunoda.
Moi, je trouve Tsunoda... Il me surprend jamais, mais il ne me déçoit non plus jamais.
Mais c'est ça, je suis d'accord avec toi.
Tu vois,
totalement d'accord avec toi.
Là, en fait, je regardais pendant que j'écoutais Louis en même temps, parce que je faisais deux choses en même temps. Il a toujours plus ou moins dominé tous ses coéquipiers. Mmh. Alors c'est vrai qu'il y a eu Ricardo à la fin, mais bon, quand il y avait De Vries par exemple, tu vois, il prenait les points.
Gasly pas trop. Hein.
Gasly moins.
Ouais, Gasly quand même. Gasly, lourde domination de Gasly sur Tsunoda. Alors évidemment, il fait la différence face à De Vries. Ben après, De Vries, voilà quoi. Tu vois, De Vries, s'est foutu de sa gueule pendant toute la première partie de saison parce que De Vries, c'était vraiment une chèvre quoi. Je suis désolé de dire les
oui, mots. Oui, tu vois, là, je regardais vite fait.
Ah, puis il a un nom de cycliste, hein. Il a un nom de cycliste, il a pas un nom de pilote de F1, De Vries.
C'est
vrai que
Verstappen, ça fait pas nom de cycliste pourtant. Ah,
voilà, voilà. Tu vois, dans la commu F1.
Pas faux, pas
tu vois, dans la commu F1, on l'appelait Nid de Mid, tu vois, parce qu'il est illimide. Je suis désolé, c'est la vérité. Genre, c'est pas vraiment un vrai comparatif. Et il a eu quoi d'autre comme adversaire, Sonoda? Il a eu Ricciardo, il a eu Lawson à un moment.
Il a eu Lawson.
Ouais, c'est ça.
Oui, qui avait
il
fait
a eu Pierre
piges.
Gasly, Liam Lawson, Nick De Vries, Daniel Ricciardo, Isaac Hadjar, et il a eu pendant deux courses. Alors là, si vous me le trouvez celui-là, impossible que vous le trouviez. Il a eu un coéquipier japonais.
Hein?
Ouais.
Non, je l'ai pas.
D'après un excellent site qui s'appelle statf1.com, il a eu Iwasa Ayumu.
Ah oui, mais ça c'était en F2.
Bah écoute, moi je l'ai sur le ouais, deux engagements.
Il l'a eu, mais en F2, il l'a eu quand il était chez
non, Visa Cash en 2020. Mais non, mais pourquoi il me dit ça? Mais le site est en train de se planter totalement.
Ah bah voilà, bravo.
Je crois qu'il est troisième pilote.
Non, mais oui, quand il était
donc
dans
pour
la...
Pour finir sur Tsunoda, écoute, s'il arrive à rentrer dans les points, rien qu'il se glisse en Q3, je pense que ça sera déjà plutôt positif. J'ai pas envie de dire oui, ça va pas marcher. Écoute, il tente quelque chose. Lui aura quand même beaucoup de pression parce qu'il est chez lui. Il doit faire mieux que Lawson. Donc c'est pas non plus cadeau. Je t'écoutais, Louis. Belle bataille à Jar Lawson aussi pour voir, parce que je pense que Isaac a pas envie de voir Lawson devant lui. Donc ça va être aussi intéressant. Et sur Tsunoda, écoute, j'ai du mal à avoir un avis. J'attends vraiment de voir ce que ça va donner. Ce que tu dis, c'est un pilote qui ne me surprend pas, mais qui ne me déçoit pas non plus. C'est vraiment... Ouais. C'est pas fade, mais c'est... Voilà, ce milieu, quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est le modem, tu vois.
Ouais, c'est ça. Non,
j'ai compris. J'ai compris, c'est parce qu'en fait, Ayumu Iwasa, là, il a fait deux séances d'essai l'année dernière. Donc, ils l'ont compté comme où il a roulé en séance d'essai avec Tsunoda.
Okay, oui.
Il a roulé au Japon et il a roulé à Abu Dhabi. Donc, c'est pour ça qu'il le compte comme partenaire. Mais il n'a jamais roulé.
Oui, parce que ça m'étonnait en plus. Je crois que c'est même en F2, ils n'étaient pas ensemble. Donc, ça m'étonnait.
Donc, ils auraient eu plus de courses, quoi. De courses.
Oui,
c'est pour ça que je ne comprenais pas. Mais le coéquipier avec lequel il a le plus roulé, c'est Pierre Gasly. Voilà, lors de 44 courses ou week-ends ensemble. Du coup, écoute, on va voir tout ça. Ça va être quand même le gros enjeu là de ce week-end, les gars. Quand même, tout ce qui se passe chez Red Bull, la tension qu'il peut y avoir. Est-ce que vous pensez que ça peut quand même ce petit like de Verstappen là pour soutenir Lawson et tout ça? Est-ce que ça remet un peu le feu aux poudres, Arnaud, sur le fait que l'ami Max, quand même, bon, son avenir chez Red Bull, on va pas dire qu'il est compté, mais qu'en tout cas, il se pose de vraies questions. C'est pas anodin de balancer un like comme ça sur une décision d'écurie aussi forte et sur une stratégie aussi affirmée. Ça veut dire qu'il y a des choses derrière, ça veut dire qu'il y a un mal-être. On le sait que depuis la saison dernière, ça peut être un peu complexe. Ça se ressent quand même encore plus, non, après ce petit épisode-là.
Bon, je pense que Max, c'est... évidemment, quand on est un quadruple champion du monde, un grand pilote, on a une part... un peu badass, notamment en piste, mais je pense que c'est quelqu'un qui tient beaucoup compte de l'humain et je pense qu'il est sincère de voir, on ne traite pas un pilote comme ça au bout de trois courses, vous avez fait un mauvais choix, voilà, même si Red Bull essaie de rattraper ce qui est peut-être encore rattrapable, entre guillemets, mais je pense qu'il n'est pas du tout d'accord sur la forme de cette séparation, de cette rétrogradation. Je ne pense pas que ça soit du tout anti-Tsunoda, mais je pense qu'on ne traite pas les gens comme ça, comme lors du début de saison dernière, avec l'affaire Horner aussi. Voilà, même s'il y a eu des classements et qu'il n'y a pas eu de poursuite plus que ça, je pense que Max est vraiment attaché à l'humain quelque part, et que quand il a envie de dire quelque chose, c'est Max Verstappen, donc il a le droit en fait.
Ouais, moi je pense pas non plus qu'il faut prendre 30 ans au sérieux de ça. C'est ce light et tout, à mon avis, genre franchement, connaissant moi, enfin je le connais pas personnellement évidemment, mais bon,
vu... Ah, on le connaît, t'es ouais, comme ça toi.
Non mais voilà, ouais, je le connais, ouais, je vais le voir après, je vais le voir après d'ailleurs. Non mais non mais tu vois, à mon avis, enfin, vu le nombre de casseroles qu'il a déjà lâchées par le passé, à mon avis il a dû, honnêtement, il a dû liker dans sa baignoire et tout, sans se poser de questions et tout. Tu vois, je pense pas qu'il est là en mode calculateur, en mode alors là si je like et tout, alors peut-être que là ça va faire réagir, ouais, et tout, Adrien Noué et tout. Non, tu vois, je pense qu'il s'en fiche un
en
peu.
En fait, je me dis que le monde de la F1 est tellement quand même aseptisé et tellement dans la com maintenant que faire ça de façon innocente, moi tu vois, j'ai. Mais c'est vrai que Verstappen est quelqu'un de.
Ouais,
de
c'est
vrai,
vraiment. S'il y a bien une personne qui se détache. Ouais, ça, s'il y a bien, ouais, une personne qui se détache de ce milieu complètement. Bah, comme tu dis, complètement aseptisé, complètement Instagrammé, tout ça, c'est vraiment Verstappen. Il s'en fiche.
Zach Brown.
Et Zach Brown. Et peut-être Norris et Toto, dans un sens, mais pas forcément.
Norris, ouais.
Bon, pas forcément pour les
mais bons. Oui, il est très nature en fait. C'est Max. Ça. C'est ça. C'est, il fait pas semblant et il fera jamais semblant, comme lors de ses conférences de presse officielles avec la FIA, où il veut plus dire un mot à cause de ce qui s'est passé l'année dernière.
Ouais.
C'est, il fait ça, pas c'est semblant. Vrai, il fait
sûr.
Jamais semblant, Max.
Bien sûr.
Il a pas envie.
Ouais, bien sûr. Mais j'ai des collègues qui sont journalistes, ils sont sur les paddocks et tout, et qui me disent, vous pensez peut-être que Verstappen, il est, c'est peut-être la personne éthérique, vous pouvez écouter dans les radios. Non, Verstappen, c'est quelqu'un qui est très sympa avec les journalistes, ouais, qui bon répond mec. Très bien, qui en fait, voilà, il est là, il répond honnêtement, il répond bien, il dialogue, il chatte et tout. Alors que par
il
exemple,
fait le taf, quoi.
Ouais, ça. Alors que par exemple, tu prends des Norris ou des gens comme ça. Genre, j'ai déjà eu des gens qui m'ont raconté des expériences inhumaines avec Norris. Il regarde même pas, il calcule même pas et tout ça. Donc, tu vois, genre. C'est pas, je pense pas que Verstappen il est là dans ce jeu et tout, d'essayer de ouais, dégager.
Mais des fois c'est un peu un truc propre aux grands champions hollandais. Tu prends Louis van Gaal, l'entraîneur de foot, tu vois, c'était cassant, c'était saignant. Tu vois, Max, c'est un peu comme ça. Tu prends, attends, j'avais un autre exemple, Arjen Robben au Barça, tu vois, tu sentais les conférences de, enfin, quand ils s'expriment ou quand ils sont pas contents d'un coéquipier, ils viennent voir dire, ils disent les choses en face.
Ouais,
quoi.
C'est ça. Bah, quand Verstappen, là, je me souviens quand il disait en 2018, j'en avais marre que vous me posez ces questions, le prochain qui me pose ces questions, je lui fous un coup de boule. Tu vois, genre,
c'est cash.
Ça. Ouais, c'est ça, c'est cash. Ou alors, moi, ma préférée, c'est quand il dit à Massa, qui est juste à côté de lui en 2014, il lui dit, je crois, parce que Massa se plaint de son comportement en piste. Et en fait, on a le Grand Prix Canada, et puis Verstappen lui dit, bon, alors si je tais-toi, vraiment, je me ferais tout petit, parce qu'en fait, l'année dernière, Massa, il a fait un tout droit dans les pneus et tout, dans les balais de gravier et tout, donc, tu vois, il se foutait de l'air, alors que Massa est un vétéran à l'époque, c'est une de ses dernières saisons
ouais,
F1 et tout,
non, il a toujours ce côté.
Donc,
oui,
je pense pas qu'il est calculateur.
Bon, on va voir ça, les gars. On va voir ça. En tout cas, on va se régaler. Grand Prix du Japon à suivre sur RMC à partir de 7h. Louis, t'as été énorme. Sache que t'as mieux débuté ta saison que tous les rookies du paddock. Hein.
C'est
fort pour ta première.
C'est sympa, merci beaucoup.
C'est fort pour ta première. Je vous rappelle que le paddock est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, qu'on attend vos petites notes, bien évidemment les 5 étoiles. Arnaud, on se retrouve lundi. T'es là toi lundi pour débriefer ou pas?
Faut que je regarde, je crois.
Le planning. Mais lui, il a un planning, celui-là, je peux t'assurer que. Planning d'Adrian Newey, il est par bons et par bons, comme on dit. En tout cas, on vous dit à lundi avec le taulier Jean-Luc Roy qui sera avec nous pour débriefer ce Grand Prix du Japon. À très vite pour parler de Formule 1 sur RMC. Bye bye.
Le paddock RMC.